Papiers d'identité, sa carte bancaire sont introuvables.
Tout France Inter, où vous voulez, quand vous voulez, sur l'application Radio France et sur franceinter.fr.
Et sur France Inter, il est 19h. Bonne soirée avec nous, c'est Hélène Philippe pour l'info. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Le procès symbole du mouvement MeToo, Harvey Weinstein, 4 ans après, l'une des condamnations du producteur est annulée à New York. On vous explique pourquoi. L'Europe peut mourir d'elle-même. Les mots d'Emmanuel Macron dramatisent l'enjeu des prochaines années, des prochaines semaines aussi, sans doute. Deuxième discours de la Sorbonne aujourd'hui. Les élections européennes, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous êtes impliqué? C'est le thème du téléphone sonne juste après ce journal. Vos questions au 01 45 24 7000. Kenji Girac, il a simulé un suicide pour faire peur à sa compagne. Il s'est tiré dessus volontairement. Conférence de presse du procureur de Mont-de-Marsan aujourd'hui. Nous sommes en Espagne où le Premier ministre réfléchit à démissionner à cause d'une enquête visant sa femme. Et puis la mort de Laurent Canté, Palme d'Or 2008, avec Entre les murs, l'un des plus grands films sur l'école. Il avait 63 ans.
France Inter.
Sa condamnation à 23 ans de prison en 2020 avait été la première victoire du mouvement MeToo. Harvey Weinstein, le producteur de cinéma déchu, accusé de violences sexuelles par une centaine de femmes, une déflagration à Hollywood et dans le monde entier. La cour d'appel de New York vient pourtant de casser cette condamnation. Bonsoir Loïc Loury.
Bonsoir Hélène.
Vous êtes en direct de New York. Les juges estiment que le producteur n'a pas eu droit à un procès équitable.
Oui, absolument. Décision prise par les juges à 4 contre 3. Et cela 4 ans après la condamnation d'Harvey Weinstein à l'issue d'un procès retentissant. À l'époque.
Loïc Loury en direct de New York, que nous avons perdu, que nous espérons retrouver. En attendant de l'entendre, écoutez peut-être l'une des premières réactions à cette annulation de condamnation. Ashley Judd, c'est la toute première actrice à avoir formellement accusé Harvey Weinstein auprès des journalistes du New York Times à l'époque, ceux qui avaient lancé l'affaire. Écoutez ce qu'elle dit de l'annulation de cette condamnation ce soir.
Aujourd'hui est un jour comme n'importe quel autre dans la vie des femmes américaines. Les violences sexuelles des hommes font irruption dans nos vies et les détruisent. Ces 4 juges de la Cour de New York ont voté pour annuler la condamnation d'Harvey Weinstein pour crimes sexuels. C'est cela être une femme en Amérique. Vivre au milieu des hommes qui revendiquent des droits sur nos corps, la décision prise aujourd'hui est une trahison institutionnelle.
Traduction assurée en direct par Alexandra Dubouchon. Merci à vous Loïc Loury, qu'on n'a pas encore retrouvé en direct de New York. On essaiera peut-être plus tard sur cette annulation de condamnation. Harvey Weinstein reste tout de même en prison puisqu'il est condamné par ailleurs dans un procès qui avait eu lieu à Los Angeles il y a quelques années.
Emmanuel Macron est donc revenu parler d'Europe à la Sorbonne.
7 ans après un premier discours qui avait marqué, l'Europe a changé, la guerre en Ukraine a mobilisé et uni les Européens comme elle les a menacés. Et à quelques semaines des élections, le 9 juin prochain, les oppositions ont vu dans le discours du chef de l'État un discours de campagne, Maxence Lambrecq.
Il leur a consacré ses derniers mots après 1h45 d'exposé détaillé.
Tous les nationalismes à travers l'Europe n'osent plus dire qu'ils vont sortir de l'euro et de l'Europe. Au fond, ils proposent plus de sortir de l'immeuble ou de l'abattre. Ils proposent juste de ne plus avoir de règles de copropriété, de ne plus investir, de ne plus payer le loyer. Et ils disent ça va marcher.
Des propos sans doute in fine décomptés du temps de parole de sa candidate qu'il appelle à brandir le drapeau aux 12 étoiles.
Le risque, c'est que tous les autres sont en train de devenir timides. La réponse n'est pas dans la timidité, elle est dans l'audace. La réponse n'est pas dans le constat de dire ils sont en train de monter partout. Elle est dans se dire on a le choix. Cette année, les Britanniques vont choisir leur avenir. Les Américains vont choisir leur avenir. Le 9 juin, les Européens aussi.
Et il a trouvé pour cette élection un slogan bien plus fort que le besoin d'Europe qui apparaît pour l'instant sur ses tracts.
Notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir.
Pour survivre, elle doit à ses yeux se simplifier, s'armer, massivement investir, protéger ses frontières, avec pour contre-modèle le Royaume-Uni qui compte expulser ses migrants vers le Rwanda.
Nous sommes en train de créer une géopolitique du cynisme qui trahit nos valeurs et qui s'avérera totalement inefficace.
Cette charge contre les populistes est censée réveiller son camp et il ne s'arrêtera pas là.
Vive l'Europe !
Demain,
vive
débat avec des jeunes à Strasbourg et bientôt une action de campagne officielle.
discours suivi par Maxence Lambrecq. L'invasion russe en Ukraine a fait avancer l'idée d'une Europe de la défense. Le chef de l'État veut un nouvel emprunt commun, comme pour le Covid, mais cette fois pour financer l'effort militaire. Il veut la préférence européenne dans le spatial et la défense. Emmanuel Macron appelle aussi l'Europe à maîtriser ses frontières, souhaite une majorité numérique à 15 ans, moins prolixe sur le climat. L'objectif de décarbonation, dit-il tout de même, doit être intégré aux missions de la Banque Centrale Européenne. L'écologie, la grande sacrifiée de ce discours, c'est désolé, la candidate écologiste Marie Toussaint, la chef de file des députés RN Marine Le Pen, n'y voit que des gesticulations quand le candidat Jordan Bardella, tête de liste pour les européennes, dénonce ce qu'il estime être une intrusion du président dans la campagne.
Le président de la République a pris le parti d'intervenir directement et personnellement dans une campagne électorale. Le fait d'intervenir ainsi acte un engagement personnel et direct, un engagement symbolique et éminemment politique. Or, qui dit engagement politique et personnel dit nécessairement responsabilité politique. On ne peut pas en effet prétendre participer à un tour de table, à une partie, miser son crédit et expliquer ensuite qu'on n'était pas concerné quand le vent semble tourner. En clair, si la liste d'Emmanuel Macron devait perdre cette élection, c'est-à-dire si elle était distancée par la liste d'opposition, le président de la République, chef de la majorité, non seulement minoritaire mais défaite, devra en tirer toutes les conséquences. La conséquence concrète et immédiate, nous l'avons dit, devra être la dissolution de l'Assemblée nationale.
Jordan Bardella qui présentait son programme pour les européennes. Aujourd'hui, conférence de presse sans questions, suivie par Élodie Forêt. Il y a un mois, le Premier ministre promettait une grande initiative pour mieux prévenir les accidents du travail. Aujourd'hui, les syndicats, d'une seule voix, écrivent à la ministre du Travail pour dire l'urgence à agir. Rappelez aussi que la suppression des CHSCT, les commissions d'hygiène et de sécurité au travail, n'a pas aidé à la prévention. Il y a 2 morts au travail par jour en France. La CGT organisait aujourd'hui à Paris une action symbolique avec les associations de familles de victimes. Caroline Dilly a perdu son fils de 23 ans. Il était couvreur à Tours et il a fait une chute de 13 mètres.
Je l'ai appris par un coup de fil un lundi soir. On avait passé le dimanche tous ensemble. On avait passé un dimanche merveilleux avec plein de projets d'avenir et plein de promesses de se revoir. Et le lendemain soir, la gendarmerie à 19h m'a appelé pour m'annoncer le décès de mon fils. Un coup de fil et votre vie bascule. Et voilà. Par exemple, j'ai hérité de mon fils, donc je vous laisse imaginer. Les familles se retrouvent vraiment très seules. Il y a un vrai silence autour des circonstances. Je me revois appeler l'inspection du travail 8 mois après le décès de mon fils pour lui demander l'heure de l'accident et elle a refusé de me donner l'information. J'avais besoin d'entendre que mon fils n'avait pas souffert. L'accident mortel est considéré comme presque du normal, malheureusement, dans notre société. C'est les risques du métier. L'employeur était poursuivi pour homicide involontaire. Maintenant, voilà, c'est le tribunal qui décidera.
Un témoignage recueilli par Romaric Caillé. Le chômage se stabilise, une très légère baisse, 0,1% sur les 3 premiers mois de l'année, selon les chiffres du ministère du Travail. Aujourd'hui, après 2 trimestres de hausse, la crise de l'immobilier ne sera pas sans conséquence. Tout de même, le promoteur Nexity annonce ce soir la suppression de plus de 500 postes. En Mayenne, c'est parce qu'ils n'ont toujours pas reçu leur salaire du mois de mars que les chauffeurs de la société ExpoTrans exercent leur droit de retrait depuis une semaine. Le trajet des enfants en situation de handicap est à l'arrêt et ils ne semblent pas prêts de reprendre parce que la société ne répond pas à ses salariés. C'est le reportage d'Emma Jacob.
Dominique Deroche conduit des élèves en situation de handicap depuis 8 mois. Aujourd'hui, il exerce son droit de retrait, mais n'oublie pas que les enfants sont aussi des victimes de la situation.
Moi, mardi soir, j'ai laissé une gamine. Je lui dis, bon, je sais pas si on va se revoir. Elle était en larmes. Ça nous touche aussi, nous. On les adore. Moi, j'ai prévenu les familles et tout. Ils sont tout à fait d'accord avec moi. On va pas se lever à 5h du matin pour être payé, quoi.
Pas de salaire depuis un mois et demi et pas non plus de complémentaire santé. ExpoTrans n'a jamais souscrit de mutuelle d'entreprise pour ses employés. Une mauvaise surprise pour Daniel Cotier. La salariée a dû débourser 880 euros pour ses nouvelles lunettes de vue. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
J'ai soumis d'entamer moi-même peut-être une grève de la faim pour se faire comprendre. Ça fait 24 ans que je fais du transport scolaire. Je n'ai jamais vu ce genre de travail. On nous a vraiment envoyé dans la gueule du loup.
La responsabilité va donc à la région pour la salariée, car c'est elle qui a cédé le marché à ExpoTrans. Un avis que partage Julien Lecornec, le référent de l'entreprise en Mayenne.
C'est eux qui ont choisi ExpoTrans, c'est eux qui ont choisi du bas coût. Voilà le résultat.
Lui aussi est démuni. Avec sa femme, ils sont tous les deux salariés de la société.
Sur mon compte, il me reste 2 euros. Je ne sais pas comment je vais faire. je ne sais pas.
Les employés sont en lien avec une avocate pour porter l'affaire devant les prud'hommes. Une cagnotte en ligne a également été créée pour leur venir en aide.
Au reportage France Bleu Mayenne, le mouvement touche aussi des salariés de plusieurs autres départements dans Loir-et-Cher, l'Aisne ou encore dans les Côtes d'Armor.
Et la suite, hein.
Kenji Girac s'est blessé lui-même lundi à Biscarrosse. Le chanteur, qui avait d'abord parlé d'un tir accidentel, a tenté d'expliquer son geste aux enquêteurs. Conférence de presse du procureur de Mont-de-Marsan cet après-midi.
Cette impulsion a consisté pour lui à vouloir faire peur à sa femme, l'impressionner. En quelque sorte, il a simulé un suicide. Donc à ce stade de l'enquête, et sauf élément nouveau, un tir qui aurait été réalisé par un tiers est donc écarté. Nous avons donc un tir qui a été provoqué volontairement par Kenji Girac.
Olivier Janson, procureur de la République de Mont-de-Marsan. Kenji Girac assume donc son geste tout en le regrettant fortement. Les analyses ont permis de confirmer qu'il était fortement alcoolisé et qu'il a pris de la cocaïne pendant la soirée. Boire de l'eau avec du charbon, ça a été un conseil du mouvement La Grande Mutation pour soigner le cancer de l'un de ses adeptes. Le procès de 6 cadres de cette secte se poursuit à Paris en l'absence du gourou mort en 2018. Et l'interrogatoire des prévenus vient de commencer. Bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
On découvre, comme celui du fondateur qui était chercheur au CNRS, des prévenus au CV impressionnants.
Oui, une thèse en biologie génétique, un post-doctorat sur les éléments non canoniques de la molécule d'ADN. Jérôme Lacoste, barbe et cheveux longs retenus par une barrette, achève une carrière d'enseignant-chercheur. De quoi mettre en confiance de nombreux adeptes, relève la présidente. Je n'ai jamais été une caution scientifique, se défend le prévenu à la barre. Moi, je cherche juste la connaissance par la méthode de la radiesthésie. Lui, qu'on a entendu peu avant, lors d'une systémie, ses conférences payantes données par le mouvement sectaire, enregistrées et diffusées à l'audience, les cadres de la Grande Mutation y délivrent leur découverte. Selon eux, le céleste transterrestre par rapport à l'infraterrestre au niveau minéral est en train de se séparer de manière générique. Plus tard, sur l'enregistrement, une adepte confesse ne pas comprendre. Mais Claire, lance l'une des prévenues, d'atome en atome, c'est l'émergence. Sèche tes larmes, Claire. C'était le continent perdu. C'est donc pour cela que le code 010-100-000 qu'on vous demande de justifier, c'est votre nom. Dans la salle d'audience, pleine à craquer, le public semble largement acquis à la cause de la Grande Mutation. De toute façon, soupire une femme en sortant, le jury ne pourra pas comprendre.
Le procès doit durer jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Compte rendu d'audience signé Charlotte Piret. La France prévoit de tester dès le début de l'année prochaine 4 ou 5 projets de stockage de CO2. C'est une annonce du ministère de l'Industrie ce soir dans d'anciens gisements pétroliers, fait-il savoir, pour accélérer la décarbonation de certaines industries. Le réchauffement climatique, jusqu'à quel point les eaux minérales naturelles risque-t-elle de souffrir du risque de contamination avec le réchauffement des températures? Cette fois, l'État a contraint Nestlé de détruire 2 millions de ses bouteilles de Perrier et l'un des 7 forages de l'usine de Vergès dans le Gard est à l'arrêt sur décision du préfet parce que contaminé à 2 bactéries. Le site fait vivre toute la commune et même au-delà. Et sur place, on est partagé entre inquiétude et attachement à l'entreprise. Rémi Brancato est notre envoyé spécial.
À la sortie de l'usine, aucun salarié ne s'exprime.
Il y a un service presse pour répondre à ça, je suis désolé.
Nestlé Waters se contente d'un communiqué. Un de ses forages a été contaminé par des bactéries d'origine fécale. Les bouteilles vendues peuvent être consommées, dit l'entreprise. À la sortie du musée Perrier, pas d'inquiétude.
Ils en parlent d'ailleurs dans le musée. Ils disent qu'ils prennent soin de l'environnement de façon à ce qu'il n'y ait pas de contamination autant que possible.
2 millions de bouteilles ont d'ailleurs été détruites.
C'est un accident de parcours, c'est résolu.
Sylvette, en promenade à quelques encablures avec son ami Christiane, est très attachée à l'entreprise.
Mon père y a travaillé, ma sœur.
On a un magnifique stade, on a des infrastructures bien dotées ici grâce à Perrier.
Une institution à laquelle on n'échappe pas ici.
Vous buvez encore du Perrier ?
C'est fou, hein ?
Jusque dans le bureau de la maire de la commune de 6000 habitants, Pascal Fortuna Deschamps, qui a pourtant appris la nouvelle dans les médias et qui a pu depuis joindre la directrice du site.
Toute l'eau qui a été produite avant et qui est produite aujourd'hui n'a pas de problème. Elle m'a assuré qu'il n'y avait pas de risque pour la santé publique. Aujourd'hui, je la crois. Mais en tout cas, Perrier, c'est entre 800 et 1000 personnes aujourd'hui qui travaillent. J'attends vraiment des informations de la préfecture pour assurer la population qui quand même s'inquiète pour les emplois et pour l'avenir de la marque.
Nestlé Clay Waters assure que des contrôles sont en cours avant d'envisager une réouverture du puits contaminé.
Reportage Rémi Brancato. Le réchauffement climatique, l'explication la plus probable, disent les scientifiques aujourd'hui, aux pluies diluviennes qui se sont abattues la semaine dernière sur les Émirats Arabes Unis.
Et donc nous retournons à New York.
On a retrouvé Loïc Loury pour nous expliquer, Loïc, l'annulation de cette condamnation d'Harvey Weinstein il y a 4 ans. Premier procès symbolique du mouvement MeToo. Il est accusé de violence sexuelle par une centaine de femmes. Et la cour d'appel de New York, Loïc, vient aujourd'hui pourtant de casser cette condamnation, estimant que le producteur n'avait pas eu droit à un procès équitable. Loïc Loury, en direct de New York, que nous avons de nouveau perdu.
Décidément.
Je suis navrée, on n'aura pas l'explication précise de Loïc. Sachez tout de même que les juges ont estimé qu'on avait fait témoigner énormément de femmes à ce procès, plus que celles qui avaient formellement porté plainte et été considérées, en tout cas si on fait un parallèle avec le droit français, comme étant partie civile dans ce procès, et que de ce fait, le procès d'Harvey Weinstein n'avait pas été jugé équitable. Il y aura donc un procès en appel. L'actualité à l'étranger nous emmène aussi en Espagne ce soir, où le Premier ministre Pedro Sanchez met son poste en jeu. Il réfléchit à démissionner depuis hier, et la révélation dans la presse d'une enquête visant sa femme pour corruption. L'opposition l'accuse de se donner en spectacle. Le parquet vient de demander le classement de l'enquête. Marie-Hélène Ballestero pour le résumé de cette folle journée.
C'est la cacophonie en Espagne. Alors que le chef du gouvernement a décidé de suspendre ses activités afin de réfléchir, les représentants de la classe politique espagnole n'ont cessé de manifester leur opinion ces dernières heures. En premier lieu, Alberto Núñez Feijóo, chef du Parti Populaire, le principal parti de l'opposition, qui a accusé Sanchez de se donner en spectacle aux yeux du monde. D'après Feijóo, le socialiste a mis en marche une opération de survie politique en cherchant à mobiliser les gens sur la base de la compassion, car il ne peut pas le faire pour sa gestion. Dans le camp des socialistes et des formations qui soutiennent le gouvernement, le son de cloche est bien différent. Ils apportent tous leur soutien au chef de l'exécutif et ne veulent surtout pas qu'il démissionne. Mais que veut vraiment Sanchez? Difficile de le savoir à cette heure-ci, car selon son entourage, il est profondément affecté. C'est lui qui a rédigé la lettre hier et depuis, c'est le silence absolu. Selon la constitution espagnole, Sanchez pourrait envisager 3 types de scénarios. La démission, se soumettre à un vote de confiance ou convoquer de nouvelles élections. Il lui reste moins de 4 jours pour prendre une décision.
Marie-Hélène Ballestero depuis Madrid. Au Proche-Orient, Israël intensifie ses frappes sur Rafah, tandis que depuis le Caire, l'ambassadeur palestinien fait savoir qu'entre 80 000 et 100 000 Palestiniens sont arrivés en Égypte depuis le début de la guerre.
Il dessinait un cinéma sensible à fleur de peau.
C'est l'hommage du Festival de Cannes au réalisateur Laurent Canté ce soir. Réalisateur mort, malade à 63 ans, cinéaste à la hauteur de ses sujets, au plus près du réel. Bonsoir Corinne Pellissier.
Bonsoir.
Et c'est sa Palme d'Or pour Entre les Murs en 2008, sans doute l'un des plus grands films sur l'école qui lui a assuré une notoriété internationale.
Voilà, une plongée étonnante dans une salle de classe, dans un collège du 20e arrondissement de Paris, son plus grand succès au cinéma, adapté d'un roman de François Bégodeau sur un face-à-face tendu entre un prof et ses élèves. 1,5 million de spectateurs, un César, une Palme d'Or et une nomination aux Oscars pour un cinéaste et un homme qui avait toujours su, en matière de social, lier le geste à la parole, engagé dans la vie aux côtés des sans-papiers ou dénonçant dans ses films la violence des rapports humains, du monde du travail, dans Ressources humaines en 2000, sur un diplômé, Jalil Lesper, dans une école de commerce, ou dont son dernier film Arthur Rimbaud sur l'affaire Mehdi Mekhlat et les réseaux sociaux.
Non, c'est pas que des tweets, ils sont relayés partout.
Ces messages datent du moment où j'écrivais sous un pseudonyme.
Toujours avec ses personnages, cette obsession de trouver sa place.
J'ai le sentiment qu'en fait, ils sont confrontés à un monde qui est beaucoup plus violent que celui qu'on a pu connaître nous, et à des extrémismes de tous bords qui leur proposent des solutions magiques à leurs problèmes, mais aussi un peu de dans leur vie.
Une fibre humaniste que Laurent Canté tenait de sa famille et de son père instituteur, à l'origine de son goût pour l'image. Il se rêvait adolescent dans la peau d'un reporter photo, mais avait fini par trouver sa voie sur les bancs d'une école de cinéma à l'IDEC, aux côtés notamment de Robin Campillo, devenu son ami, son complice d'écriture et de montage. Laurent Canté, c'était d'abord un esprit d'équipe, le goût du travail en bande et de la transmission, cofondateur à l'heure des premières plateformes de VOD, de la Cinéthèque, qui possède aujourd'hui l'un des plus beaux catalogues de curiosité d'épuration et de vidéos de patrimoine. Il est recommandé Bergman, Cassavetes, Bresson, Fellini, Renoir et continué ces derniers mois à travailler et préparer entre deux chimios son prochain film.
Corinne Pellissier pour cet hommage au réalisateur Laurent Cantet. Le tourisme doit changer, les mots du maire de Venise aujourd'hui. Première ville touristique à imposer un droit d'entrée payant au centre-ville, 29 jours seulement dans l'année. Ça servira de test. Plusieurs centaines de personnes ont tout de même manifesté derrière une grande banderole ce matin disant non au ticket, oui à des logements et des services pour tous. Qu'il faudra faire avec les touristes l'été prochain à Paris, attendu très nombreux pour les Jeux Olympiques. Ce ne sera pas simple pour ceux qui travaillent, qui devront circuler comme les livreurs. Voici une application lancée pour eux, J'optimise. C'est son nom officiellement lancé ce matin, mise en ligne demain. Bonsoir Victor Vasseur.
Bonsoir.
Vous avez pu la tester, est-ce que c'est efficace?
Oui, c'est ultra précis. La quasi-totalité des zones de livraison parisiennes et de Saint-Denis sont identifiées dans la plateforme. Cette application permet d'abord d'adapter ses futures livraisons car elle prend en compte les restrictions de circulation et l'état du trafic. Jean-Philippe Elie est le chef de projet numérique d'Interloop Plus à l'origine de cette plateforme.
Des entreprises nous ont dit, on a déjà commencé nous à planifier nos tournées parce qu'on avait sous les yeux la réalité du terrain, on voyait vraiment où étaient nos clients et ceux qui seraient impactés par ces zones bleues, ces zones rouges, notamment au niveau des restrictions, puisque je rappelle que c'est 2h30 avant une épreuve démarre la zone bleue, la zone rouge, elle se finit 1h après l'épreuve et il y a des sites où ça dure toute la journée.
Car il n'y a pas que les restaurants qu'il faut réapprovisionner, les hôtels, les hôpitaux, les pharmacies, les stations-service aussi. La plateforme J'optimise permettra aux livreurs de trouver les places de stationnement disponibles. Les itinéraires de livraison seront ensuite intégrés à Waze et Google Maps, explique Jean-André Lasserre, l'une des têtes pensante de la plateforme.
Et ce système de guidage en temps réel va permettre au conducteur d'aller très finement dans sa livraison puisqu'on a des informations sur l'adresse du lieu de destination, quelles seront les conditions de circulation, mais à la rue près, au créneau horaire près, dans les zones bleues et dans les zones rouges.
Il y a 5,7 millions de livraisons chaque semaine en Ile-de-France, 3,8 millions rien qu'à Paris. Toutes les entreprises pourront utiliser cette plateforme, elle est gratuite.
Merci beaucoup Victor Vasseur, et ceux qui travaillent à la RATP seront récompensés 1600 à 2500 € de primes proposées aujourd'hui par la direction aux conducteurs du métro ou du RER qui seront sur le pont.
Hélène Philly, merci beaucoup et à demain. Dans un instant, c'est le téléphone sonne, on parle des élections européennes ce soir. Un œil sur le ciel d'abord.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne, tout simplement, sur euromaster.fr.
Élodie Calac, moins froid mais très encombré demain matin.
Oui, beaucoup de nuages, quelques averses, un petit peu de neige vers 1300 à 1500 mètres sur le massif central et les Alpes. Des averses plus fréquentes et parfois musclées de la Provence vers le sud de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Seulement quelques ondées, en revanche, de la Touraine vers le bassin parisien et les Ardennes. Et de belles éclaircies près des Pyrénées, sur le littoral du Languedoc-Roussillon et sur la Corse, avec des températures entre 3 et 10 degrés.
Et un risque d'orage aussi l'après-midi, Élodie.
Ce sera variable, oui, avec quelques éclaircies appréciables, mais quelques averses orageuses. D'ailleurs, une zone plus active circulera sur les régions de l'Ouest. Elle progressera vers la région parisienne et le centre-Val de Loire en fin de journée. Sur la Provence, la Côte d'Azur, le sud des Alpes, là aussi, des averses nombreuses. Et puis des températures en hausse, mais encore trop juste pour la saison. 12 degrés à Langres et Aurillac, 15 à Lille, Nantes, Limoges, 16 degrés à Paris, Lyon et Marseille, 17 de Bordeaux jusqu'à Toulouse et 19 degrés à Ajaccio.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
Ce vendredi, France Inter, en direct du Printemps de Bourges, Crédit Mutuel.
Laurent Goumard.
Vivez pendant 3 heures les temps forts du festival. Un peu de love et de tendresse avec Eddy de Préto.
Finalement, c'est ce qu'il nous reste.
Clara Isée viendra illuminer la scène. Et de nouveaux messages personnels à Françoise Hardy.
Une soirée au Printemps de Bourges Crédit Mutuel.
C'est ce vendredi sur France Inter de 20h à 23h.
Et il est 19h23.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Est.
Alors, où est-ce que vous en êtes à 6 semaines du scrutin européen? Comment ça va? Est-ce que vous êtes dedans? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous avez du mal à vous y mettre? Est-ce que vous allez voter français ou européen? Est-ce que vous sanctionnez? Est-ce que vous votez pour? Est-ce que vous votez contre? Est-ce que justement ce vote aux élections européennes est un peu le seul qui vous permette, parce qu'il engage bien d'autres choses, est-ce que c'est le seul qui vous permette de voter pour une liste et pas contre un homme? Est-ce que c'est exactement l'inverse qui vous traverse l'esprit?
prix. Pourquoi on pose cette question aujourd'hui? Parce que vous avez peut-être entendu, sinon suivi, qu'Emmanuel Macron avait prononcé un discours fleuve sur l'Europe, un discours de la Sorbonne bis. Alors, est-ce qu'il aide sa tête de liste en le faisant? Est-ce qu'il redynamise sa propre campagne? Vous allez nous le dire. Les sondages, on les connaît, le RN très fort, très en tête au moment où on se parle. Et dans le même temps, nous avons vécu dans cette mandature européenne des événements quand même sacrément inédits qui ont mis l'Europe en première ligne, le Covid, la guerre, l'énergie et d'autres encore. Alors, est-ce que cela bouscule le vote pour le rendre plus européen? Visiblement pas très sûr et on va en parler ensemble. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Le premier, c'est vous, Jean-Paul. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, merci de me prendre à l'antenne. Merci pour vos émissions. Alors, je me suis posé la question en entendant le thème de l'émission de ce soir. Mmh. Est-ce que je vais aller voter? Probablement oui, même certainement. Mais ce qui m'afflige, c'est quand j'écoute les débats, quand j'écoute les diverses informations ou les diverses émissions consacrées à l'Europe, et que j'entends les leaders politiques français, je ne les entends parler que de problèmes franco-centrés. Et j'entends assez peu, finalement, des interventions qui parlent de l'Europe face au monde. Et pourtant, c'est bien de cela qu'il est question. Moi, je crois en une Europe qui serait forte, qui serait vraiment unie. Et malheureusement, ce que j'entends, ce sont des partis politiques nationaux. Alors, je n'entends pas ceux des autres pays. Parce que j'entends France Inter et que on entend surtout quand même les leaders politiques français qui défendent leurs intérêts de parti, leurs intérêts politiciens, parfois dans le meilleur des cas des intérêts nationaux, mais trop rarement les intérêts européens.
Alors,
j'irai voter en fonction de ma conscience.
Ouais.
C'est pour ceux qui me semblent défendre le mieux l'idée de l'Europe.
Merci beaucoup. Merci de votre intervention, Jean-Paul. Merci de cette entrée en matière pour discuter ensemble jusqu'à 20h autour de la table. Tiens, dans cet ordre-là, il y a Yaël Gauze. Bonsoir Yaël.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Service politique de France Inter, c'est vous. Il y a Brice Teinturier, bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
Directeur général délégué d'Ipsos France, c'est vous. Vous réalisez d'ailleurs pour Inter des sondages réguliers pour ces élections. La prochaine fournée, si je puis dire, ce sera le 15 mai prochain. Sylvain Kahn, bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
Professeur
bonsoir
au Centre d'études d'histoire de Sciences Po. Vous avez écrit notamment L'Europe face à l'Ukraine aux éditions PUF. Et c'était là, c'est cette année, en 2024. C'est d'abord vers vous que je vais me tourner, Brice Teinturier. Vous, le sondeur, dans le début de son intervention, Jean-Paul, il dit « j'irai voter sûrement, probablement ». Moi, je voudrais savoir où on en est là-dessus, justement. Est-ce que l'enjeu, c'est vraiment celui-là, au-delà de tout ce qui va faire notre discussion jusqu'à 20h? Le premier enjeu, c'est celui-là. Et pour l'instant, ils disent quoi, les Français?
C'est un des enjeux fondamentaux, la mobilisation. Pour l'instant, on a une participation qui tourne autour de 45%, c'est-à-dire en dessous de celle de 2019, qui était de 50%, mais finalement dans la norme des précédents scrutins européens, où l'abstention a toujours quasiment, depuis le début des années 2000, dépassé les 52, 53, 54%. Donc c'est un scrutin faiblement participationniste, et les électeurs comme Jean-Paul nous intéressent énormément, nous, parce que c'est clé pour la qualité des intentions de vote, mais intéresse encore plus, c'est ce qui est le plus important, des responsables de liste.
Ben oui.
Parce qu'en fonction des mobilisations différentielles qui peuvent s'opérer, est-ce que des électeurs vont davantage se mobiliser en faveur de telle ou telle liste? Eh bien, vous pouvez avoir, et c'est un des enjeux de cette élection, une liste taillée, pour ne pas la citer, qui justement est pénalisée, une liste à l'inverse, plutôt Glucksmann, qui est bien mobilisée, ou RN, qui est bien mobilisée, Jordan Bardella, donc ça joue évidemment sur le résultat final.
Est-ce que justement, on en parlait, j'espère qu'on y reviendra. Il y a beaucoup d'appels d'ailleurs qui vont dans ce sens-là. Par rapport à ce que je disais en introduction, est-ce que cette mandature européenne très particulière bouscule les motivations du vote plus européen? Est-ce qu'on sait le voir, ça? Ou est-ce que finalement, hélas peut-être, mais finalement c'est négligeable?
Alors ça ne joue pas tellement. On pensait, on faisait l'hypothèse, on a testé hein, dans des enquêtes et avec le CEVIPOF, qu'on allait avoir une européanisation accrue de la campagne, ou en tous les cas des motivations de vote des électeurs. On reste dans cette zone d'un électeur sur deux qui nous dit « je vais prendre en compte les considérations nationales », et à ce moment-là c'est pour sanctionner le gouvernement principalement, et la moitié de ceux qui vont aller voter qui nous disent « moi c'est en fonction de considérations européennes que je me déterminerai ». C'est toujours un scrutin donc mixte ou bâtard.
En un mot, pardon Yaël, je vous ai vu, je voudrais me tourner vers Sylvain Kahn, juste une seconde là-dessus, justement, et vous avec votre casquette, vraiment l'Europe face à l'Ukraine, est-ce qu'il y a un étonnement chez vous, en fait, qu'on n'ait pas réussi, y compris cette fois, à européaniser? Et alors je voudrais surtout pas vous piéger, parce que vous connaissez pas évidemment les 27 pays par cœur, mais je voudrais savoir si au fond c'est tout le monde pareil. Au bout du compte, on vote tous d'abord dans notre pays et éventuellement pour l'Europe.
Bah, c'est pas mal, 1 sur 2.
Ouais, ouais. Alors, c'est
oui, c'est le verre à moitié plein. Non, mais vous savez, avec l'Europe, c'est toujours pareil. C'est toujours le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Donc, le fait que un électeur sur deux qui se prépare à voter dans les intentions de vote dise que sa motivation principale, parce que ça pourrait être une motivation secondaire pour les autres, c'est les enjeux européens, les politiques européennes. Voilà, je pense que ça permet d'être plutôt relativement optimiste.
Mais on est tous les mêmes, Sylvain Kahn, ou pas? Si on était tous allemands autour de la table, on répondrait de la même manière, ou pas?
À peu près.
Ouais.
À peu près.
Ou espagnol, ou portugais.
À peu près. Il y a des pays où, en fait, l'impression que j'ai, c'est pas avec exactitude ce que je vous dis là, mais sauf erreur de ma part, comment dire, plus un pays est peu nombreux démographiquement, plus ils se sont concernés par les enjeux européens,
bien sûr, ouais.
Parce que les politiques européennes, évidemment, jouent un rôle d'autant plus important pour un pays que ce pays n'a que 5, 10 ouais. ou 15 millions d'habitants.
On était au Portugal dans Un jour dans le monde tout à l'heure, et c'était le sens de ce que nous disait effectivement notre invité. Je vous ai vu, Brice Teinturier, mais il y a elle d'abord qui voulait intervenir.
Pour répondre à Jean-Paul, oui, il y a un malheur, il y a une malédiction de ces élections européennes depuis le début, depuis 1979, c'est que ce sont, là aujourd'hui, 27 élections nationales coordonnées, mais nationales. Ce sont 27 scrutins nationaux. Et ça fait pas forcément un sentiment européen à 27. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, le Parti social-démocrate au Parlement européen, le Parti populaire européen, donc la droite et la gauche, ce sont des agrégats. Et vous avez à l'intérieur de ces grandes formations des gens qui pensent pas du tout pareil.
Ouais.
Et donc vous avez aujourd'hui l'un des échecs d'Emmanuel Macron, s'il y en a un, c'est sa promesse de la Sorbonne 1, les listes transnationales n'existent pas.
Mais en revanche, ils se regardent les uns les autres, on retournera au standard dans un tout petit instant, mais et y compris d'ailleurs, tiens, puisqu'on en était au Portugal tout à l'heure, l'extrême droite portugaise qui parle à l'extrême droite de chez nous et qui se dit, attends, quand on sera en Europe, là pour le coup, on va pouvoir faire bloc à cet endroit-là. 27 élections nationales, Brice Teinturier, mais qui regarde ce que ça donnera après dans la formation des groupes au niveau européen, et très sévèrement d'ailleurs.
Oui, au niveau des partis, on le regarde. Au niveau des opinions publiques, c'est beaucoup plus confus, c'est beaucoup plus lointain. Yael Gauz a tout à fait raison là-dessus. Le 1 sur 2, je voudrais revenir sur le 1 sur 2. On peut considérer qu'effectivement, verre à moitié plein, verre à moitié vide. Si on le compare malgré tout à 2019, et alors qu'on a eu des crises, vous l'avez souligné en introduction, importantes, le Covid, l'Ukraine, etc., eh bien, il reste stable. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une montée des enjeux strictement européens. À minima, on peut dire ça en comparant par rapport à 2019. Plus le pays émet un vote populiste, plus les formations populistes sont puissantes. Bon, en France, c'est plutôt le RN. Et du coup, plus vous avez une nationalisation du scrutin. Le 1 sur 2, il dissimule que plus de 70% des électeurs du RN nous disent qu'ils voteront en fonction de considérations nationales et pour sanctionner Macron, ce qui n'est absolument pas le cas des électeurs écologistes ou socialistes ou évidemment de la REM.
Marie est avec nous. Bonsoir Marie.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
J'appelais juste pour dire que j'ai 43 ans et que c'est la première fois que je m'engage en politique et qu'il faudrait expliquer mieux aux gens comment fonctionne le Parlement, les commissions. Moi, le fait d'apprendre qu'il y avait une commission des droits de l'homme, ça m'a extrêmement motivée. Enfin voilà, en tout cas, c'est un tremplin qui fait que maintenant, je serai toujours engagée en politique à partir de maintenant.
Eh bien, écoutez, formidable.
Et je crois au fait qu'une nouvelle gauche puisse exister.
Eh ben, voilà. Entrer, merci Marie, merci beaucoup. Entrer en politique par le scrutin européen, et j'ai envie de dire que c'est pas banal, en fait, mais plutôt intéressant dans l'époque qu'on vit aujourd'hui, Sylvain Kahn, quant à mieux expliquer les enjeux. Moi, j'ai l'impression qu'on passe notre temps pendant ces élections à tenter de le faire, mais jamais suffisamment. La commission, le Parlement, le rôle de chacun, les différentes instances, etc.
Mais... Moi, par rapport à ça, j'ai une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut, mais ça, c'est très lié au nom, aux mots qu'on utilise. Je vais vous prendre mon exemple favori. C'est, en ce moment, tout le monde le sait,
L'Europe est très mobilisée parce qu'on a 2300 km de frontière avec la Russie, qui est en guerre avec un pays avec lequel on a 1300 km de frontière. Le 1, c'est l'Europe. Et il se trouve qu'il y a un type, on va l'appeler comme ça, Josep Borrell, qui est un ministre européen des Affaires étrangères et de la Défense. Bon, sauf qu'on l'appelle jamais comme ça. On l'appelle par son surnom qui est HRVP. HRVP, les gens...
Enfin, pardon, mais vous êtes le seul à l'appeler HRVP. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais appelé comme ça.
Comment vous l'appelez,
vous ? Ah ben, je l'appelle le ministre...
Vous l'appelez vraiment comme ça ?
Bah, évidemment, oui. Ou je l'appelle par son nom. Non, mais sérieusement, je ne sais pas qui l'appelle HRVP.
Bon.
À nous.
Mais en tout cas, mais ministre...
Ce qui veut dire au représentant pour
au représentant, la politique étrangère. Au représentant vice-président de la Commission... Au représentant pour la politique européenne de défense et de sécurité, vice-président de la Commission européenne. Mais bon...
Non coupable. Ouais, je tiens à le dire.
Je pensais pourtant que je vous écoutais beaucoup, Fabien.
Ah non, mais... ça, j'en suis absolument convaincu. Okay. Si vous m'avez entendu dire, je vous prends je donne un million de dollars.
Non, peut-être pas HRVP, mais je pensais pas que vous disiez ministre.
Des euros.
Voilà. Mais donc, en tous les cas, son titre officiel, c'est pas ministre, c'est même pas commissaire. Voilà. Donc, si par exemple, quelque chose qui s'appelle le Conseil de l'Union européenne, qui dans les faits correspond au Parlement des États, c'est-à-dire que c'est un Parlement dans lequel il n'y a pas 720 députés, comme dans le Parlement européen, élus au suffrage universel par les citoyens, mais il y a 27 représentants des 27 États membres, et la plupart du temps, ce sont des ministres des gouvernements des 27. Si on l'appelait, mettons, Sénat ou Parlement des États, déjà, ça serait intuitivement beaucoup plus clair que si on disait Conseil de l'Union européenne.
Oui, oui, mais là-dessus, je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses qui sont totalement absconses.
Et c'est un peu fait exprès. Voilà, c'est un peu fait exprès par les classes politiques nationales.
Il y a deux choses très différentes. Il y a parlé du fonctionnement de l'Union européenne et il y a parlé de ce que fait l'Union européenne. Et c'est pas la même chose. Le fonctionnement, la Commission, etc., ça n'intéresse pas beaucoup les Français et on peut le comprendre. Et ce n'est pas peut-être l'essentiel. En revanche, il faut beaucoup plus parler de ce que fait l'Europe, des bénéfices pour les Européens. Et là, ça intéresse nos concitoyens.
Axel, bonsoir.
Oui, bonsoir, merci de me recevoir.
Je vous en prie, allez-y.
Oui, je me permets de m'exprimer parce que je vote effectivement pour les élections européennes de façon évidente parce que nous avons très peu d'occasions de nous exprimer, nous, en tant que citoyens, donc je ne vais pas louper l'occasion. Et d'ailleurs, ce qui m'embête en fait avec l'Europe, c'est qu'effectivement, je souhaite voter pour faire que l'Europe soit ce qu'elle devrait être et pas ce qu'elle est actuellement, c'est-à-dire pour moi une union marchande où les États sont plus en opposition, en concurrence plutôt que partenaires. La preuve, le prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz. Et en plus, du coup, moi, je souhaite voter pour nos députés au Parlement européen, mais je me pose la question aussi de la Commission européenne qui a, pour moi, plus de force que le Parlement, ou par exemple la présidente de la Commission européenne qui n'est pas élue démocratiquement. Donc je me pose la question effectivement de ce que devrait être l'Union européenne et pas ce qu'elle est actuellement.
Et c'est la question qui revient souvent. Merci beaucoup pour cette question, Axel, sur à la fois le fonctionnement, c'est vers vous que je me tourne, Sylvain Kahn, mais aussi ce qu'on a déjà demandé à l'Europe et qu'on n'a pas obtenu, et il n'est pas revenu jusque-là, notre auditeur, mais les sondages qui disent non, et puis finalement les pays qui disent oui, etc., etc. C'est aussi ça l'image que peut avoir l'Europe aujourd'hui encore.
Oui, c'est la question que pose notre auditeur, c'est celle, dans notre jargon d'universitaire, du déficit démocratique. Est-ce que l'Europe serait, alors qu'elle affirme des valeurs démocratiques, aurait un système de prise de décision qui, en fait, serait un déni de démocratie? Bon, alors là-dessus, il y a des débats, et c'est très important qu'on ait des débats, et c'est très important qu'on considère que, en l'occurrence, chacune des opinions puisse être argumentée. On peut dire, voilà... Prenons l'exemple du fameux traité constitutionnel européen qui a été rejeté en 2005, tout le monde s'en souvient. Et Fabienne Synthèse, vous faisiez allusion au fait qu'il est, après avoir été rejeté, il est revenu
par la fenêtre
du traité de Lisbonne par ratification parlementaire. Ce traité constitutionnel européen avait à l'époque été ratifié par 17 pays, par 15 pays et rejeté par 2. Sur les 15 pays qu'il avait ratifiés, il y en avait 2 qu'il avait ratifiés par référendum. Alors, c'est compliqué, parce que du point de vue de ceux qui avaient dit oui et qui l'avaient ratifié, y compris par référendum, eux, ils pouvaient dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a un pays qui dit non ou deux pays qui disent non, et du coup, on ne peut pas l'avoir. Voilà. Je pose juste les termes du débat. Je ne suis pas en train de dire qui a raison. Voilà. Maintenant, la nomination de la présidente de la Commission européenne, puisque votre auditeur semblait... Enfin, voilà, il a le sentiment que... Elle a un pouvoir non issu de la démocratie. Bon, il faut voir que le président ou la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, actuellement, elle est proposée par les chefs d'État et de gouvernement qui, eux, sont les émanations des élections nationales. Et ensuite, il ou elle est validé par.
Oui, mais ce que disait notre auditeur, c'est que voilà, enfin, il y a une validation effectivement du Parlement, mais le pouvoir du Parlement et ce que devrait être le pouvoir du Parlement, c'est-à-dire les gens qui sont élus par rapport à la Commission, est un pouvoir moindre. C'est ce que j'entends dans la question.
Oui,
de notre
ils
auditeur.
Peuvent ne pas valider.
Exactement.
Ils peuvent ne pas valider cette présidente de Commission. Ce qui est, le Parlement européen, c'est très lent, crise par crise, mais avance et prend du pouvoir. Hein.
Oui. Yael, vous vouliez ajouter quelque chose à un moment?
Non, mais sur le déficit démocratique, on a un cas d'école en ce moment qui va revenir dans l'actualité forcément à un moment donné. C'est le CETA, par exemple. Le CETA, traité de libre-échange Canada-Union européenne, pas ratifié par le Sénat en France, mais le gouvernement veut qu'il s'applique. Voilà, on est dans un cas d'école où est-ce que c'est quelque part une majorité qualifiée à 27 qui fait la loi ou l'État? Voilà, on est dans cette question démocratique-là, effectivement.
Et on est dans le même ordre d'idées, Brestin-Thuriet. Là, je jette un œil sur WhatsApp et je vois Daniel qui nous dit « Peut-être que cette Europe est vantée par notre majorité présidentielle, mais ce n'est pas celle que l'on veut, nous les Français, d'où les votes ou les intentions de vote pour des partis d'extrême droite ou d'extrême gauche. Personnellement, je voterai pour la liste qui propose une réforme profonde de cette Europe, dont le mantra est le marché, le marché, le marché. » Et le sentiment que j'ai, moi, et vous m'arrêterez si je me trompe, Brestin-Thuriet, c'est qu'il y a eu une époque, peut-être même d'ailleurs à la dernière mandature, où ce qu'on mettait sur la table, c'était rester ou partir. Aujourd'hui, ce n'est absolument plus la question. Rester, ça c'est pour tout le monde, mais rester dans une autre Europe.
Oui, c'est devenu le mantra généralisé. Mm-hmm. C'est-à-dire que les partis qui étaient hostiles à l'Europe et qui le disaient en tant que tel, qui voulaient, souvenez-vous, et je pense évidemment là au Rassemblement National, sortir de la zone euro, sortir de l'euro, voire sortir de l'Union européenne, ne le disent plus. Et ils ne le disent plus parce qu'ils ont parfaitement compris que ça inquiétait l'électorat, notamment l'électorat âgé, c'est-à-dire celui qui va voter, qui se mobilise le plus. Donc ils sont sur l'idée, maintenant, nous ne sommes pas contre l'Europe, mais il faut renégocier un certain nombre de traités. La vraie question, c'est est-ce qu'en renégociant ces traités tels qu'ils veulent les renégocier, vous videz de sa substance ou non l'Europe? Mais il n'y a plus de formation qui, à part quelques-unes, qui explicitement dit non à l'Europe. Cela étant, les opinions publiques, les Français notamment, nous disent qu'ils sont favorables à l'Europe, continuent à penser majoritairement que l'appartenance de la France à l'Union européenne est une bonne chose, mais qu'il faut effectivement en changer soit la direction, soit le mode de fonctionnement. Et là, ce sont vos éditeurs. Elle est trop libérale pour certains, elle n'est pas assez protectrice pour d'autres, etc.
Yael,
c'est là qu'Emmanuel Macron a fait son entrée en campagne, ce matin à la Sorbonne, quand il utilise cette image sur les nationalistes, qu'ils disent ils ne veulent plus sortir de l'immeuble, mais ils ne veulent pas respecter les règles de la copropriété.
Ils ne veulent pas payer le loyer.
Ce qui revient en même, parce qu'à la fin, l'immeuble devient invivable. À la fin, l'immeuble devient invivable. Donc voilà, on est en plein dedans. Et la question, toute la question de la campagne, qui maintenant va forcément s'accélérer, puisque le président a enclenché les choses de son côté et pour sa candidate Valérie Ayé, c'est est-ce que... il y a matière à démasquer ou pas ceux qui sont des européistes mous ou ceux qui cachent en fait une volonté de sortir sans le dire.
Vous dites maintenant la campagne va s'accélérer. Moi, je me tourne vers vous, Brestin-Thuriet. Est-ce que vraiment maintenant la campagne va s'accélérer parce qu'il y a eu ce fameux discours? Et au fond, question subsidiaire, si je puis dire, cette espèce de mise en scène à nouveau de l'affrontement RN-Macron dont on parlait aussi à l'instant, est-ce que c'est vraiment une bonne idée en fait pour amener les gens aux urnes?
La campagne ne va pas s'accélérer parce que le président de la République a fait un discours sur l'Europe, ça c'est clair. Elle va probablement quand même se manifester davantage parce qu'il y a plus de débats et parce qu'on se rapproche tout simplement du scrutin et que c'est dans les dernières semaines ou dans les derniers jours que les électeurs, voilà, comme à chaque fois, écoutent davantage. Maintenant, ce discours, il a au moins un objectif manifeste qui est de remobiliser les électeurs de la liste Ayée qui sont sous-mobilisés par rapport à ce qu'ils étaient en 2019. Donc il y a cet arrière-plan qui me paraît indéniable, et peut-être qu'il y aura un effet autour de l'Europe, de l'attachement à l'Europe, qui peut aider à la mobilisation de cet électorat. Il faut bien se souvenir qu'en 2019, vous venez de le rappeler, l'affrontement c'était le RN et les listes, la liste Macron, l'oiseau à l'époque, et c'était surtout l'idée, les pro-européens et les anti-européens. Ouais. Or aujourd'hui, les pro-européens, eh ben, il n'y a pas que la liste Ayée, il y a aussi la liste Glucksmann, et c'est ça qui rend la tâche justement de la majorité présidentielle beaucoup plus compliquée qu'en 2019.
On va retourner au standard avec Catherine dans une minute, je voudrais juste vous rappeler quand même un certain nombre de chiffres et de résultats, parce que moi j'ai l'impression qu'on a oublié, quand on voit les sondages d'aujourd'hui, vous êtes bien placé pour le savoir, Brestin-Thuriet, qu'on voit le RN très très haut à 31, effectivement, derrière Renaissance et derrière le Parti Socialiste. La différence, effectivement, 31-17, notamment pour le numéro 2, est immense. Mais en 2019, moi j'ai l'impression qu'on a... Ouais, c'est ça. C'était un point, mais c'était le RN d'abord. Et j'ai l'impression qu'on a oublié, en fait, que déjà, à ce moment-là, dans une élection européenne, c'était le RN d'abord.
Oui, mais il y avait l'effet gilet jaune, on sortait de la crise des gilets jaunes, et pour le pouvoir en place, surmonter la crise et monter à 21% des voix dans ces européennes, c'était en soi déjà un exploit. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que l'écart est tel que dans l'équipe Ayer et chez Emmanuel Macron, on n'espère plus passer devant le RN, clairement.
Ouais,
on veut on veut juste réduire l'écart. Retrouver l'étillage de 2019 serait déjà en soi un exploit pour eux. Donc on est là, on en est dans un niveau où il faut remonter de 17 à 18, peut-être 19, 20, 21%. Mais c'est tout l'enjeu des 46 joueurs.
Mais si en plus vous ajoutez aux 31-32% du RN la liste menée par Marion Maréchal Le Pen, celle menée par Florian Philippot, celle potentiellement menée par Asselineau, c'est-à-dire les souverainistes anti-européens et qui forment ce bloc plutôt à l'extrême droite, ça pèse pas loin de 40%. Donc là, on est très largement au-dessus de ce qu'on avait en 2019.
Allez, on est en train de parler d'Europe et où en êtes-vous, vous, juste avant à 6 semaines des élections européennes, avec Brice Teinturier, qui est le directeur général délégué d'Ipsos France, avec Sylvain Kahn, qui est professeur en centre historique de Sciences Po, auteur de Face à l'Ukraine, l'Europe face à l'Ukraine, chez PUF en 2024, avec Yael Gauze, qui est le chef du service politique de France Inter. Et avec vous, Catherine, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors ma question, ce serait, toujours en rapport à ces élections européennes, si on met de côté le fait de voter contre un parti, voilà, une idéologie, etc., quelle serait la bonne raison de voter ? Est-ce que vous pouvez me trouver une bonne raison de voter ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, tout ce qu'on parle là, ça me parle pas, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment va une société. Si on regarde le nombre grandissant de jeunes qui se suicident, de personnes âgées qui se suicident en Europe, ça grimpe. De personnes qui sont en dépression, c'est-à-dire d'orientation sociétale, qui sont prises et qui ne font vraiment pas du bien aux citoyens. C'est ça qui m'intéresse, moi. Or, une remise en question de vision de société, il n'y en a pas. Donc je pose ma question, est-ce que vous pouvez me donner une bonne raison de voter ?
Eh ben alors donc du coup pour l'instant, au moment où on se parle, si ça se passe demain, Catherine, vous n'y allez pas ? Ou pas ?
Ben en fait, je vais tortiller quoi, j'en sais rien.
On va essayer de détortiller. Est-ce que quelqu'un a un argument en béton, Brice Teinturier et Sylvain Kahn, l'un après l'autre ?
En béton, je ne sais pas, je peux au moins vous dire quels sont les arguments de ceux qui prônent une Union européenne et évidemment la participation. Je rebondis sur le premier élément qu'a évoqué votre auditrice, le thème de la santé. Eh bien oui, on peut considérer, certains en tous les cas considèrent, que l'échelon pertinent pour assurer une souveraineté, par exemple en matière de fabrication de médicaments, et c'est important, c'est l'échelon européen. Et que si on veut être sûr en France d'avoir du Doliprane demain, comme on en aura besoin, il faut relocaliser des productions médicamenteuses sur le territoire européen. On peut considérer que la transition écologique, l'échelon pertinent, c'est à minima l'échelon européen. Les Français nous disent que c'est l'échelon mondial, mais ensuite l'échelon européen. Même chose pour la défense, même chose pour les politiques en matière d'immigration. Donc il y a beaucoup de sujets majeurs qui se traitent plutôt à l'échelon européen, mais en revanche, les Français n'en sont pas convaincus. C'est ça tout l'enjeu.
Sylvain Kahn, vous devez prendre Catherine par la main pour l'emmener voter, vous lui dites quoi ?
Ce que je répondrais à Catherine, c'est que le 9 juin, en votant pour certaines listes, on voterait pour des partis qui pensent que si on s'allie d'une manière ou d'une autre, ou si on est accommodant avec la Russie, tout ira bien pour notre avenir. Et il y a des listes qui pensent que si on est accommodant avec la Russie, on sera plus libre ou on ne sera plus indépendant d'ici à 10 ans. Voilà. Alors, je suis d'accord, ça ne règle pas la question sociale.
Non, ça ne parlera toujours pas, Catherine. Ouais,
ça ne règle pas la question sociale, mais on peut se demander si... Est-ce qu'on préfère avoir les grands problèmes et les frustrations qu'on a vis-à-vis de l'état de la société en étant néanmoins dans un pays libre ou en étant dans un pays qui ne l'est plus ?
Rapidement, Catherine, les démocraties sont minoritaires aujourd'hui dans le monde, les démocraties réelles, pas les faux régimes à parti unique. Quand vous votez en Russie, il y a de la fraude massive, ça a été prouvé, documenté. Des gens sont morts pour le droit de vote, on pense à eux quand même. La révolution des œillets au Portugal, c'était il y a 70 ans.
Mm-hmm.
Il y a 50 ans, pourquoi je dis 70 ans ?
Bah, je sais pas.
Années 70,
vous
voilà.
Vous avez tous vieilli.
Donc il y a quand même beaucoup de gens qui ont sacrifié leur vie pour vous permettre de voter un jour, alors utilisez votre droit de vote quand même.
Question politique sur WhatsApp, rapidement, je ne comprends pas que l'écologie ne soit pas au cœur de la campagne. Que ferons-nous des réfugiés climatiques? C'est ce que dit Christelle sur WhatsApp. Je suis catastrophée, nous dit William, d'entendre à quel point les questions d'écologie et d'environnement sont absentes, y compris des propos du président de la République. Nous avons également Alice qui nous dit « Je suis européenne convaincue, je voudrais voter vert et qu'on prenne en compte le climat. » Mais trois listes vertes, ça me semble incompréhensible. C'est à l'Europe de porter l'écologie, sinon ça ne sert à rien.
Moi j'en ai compté sept.
Alors voilà, mais sept.
Il y a 34 listes potentiellement qui peuvent se représenter. Le dépôt des listes est entre 6 et 17 mai.
Et la question,
donc on sera fixé fin mai.
Voilà. Et la question c'est qu'est-ce qui s'est passé entre 2019 et 2024 aujourd'hui pour que les listes écolo qui étaient si haut, qui à un moment étaient même très haut, aujourd'hui soient là, en tout cas pour la première, on est en cinquième position. C'est loin. Qu'est-ce qui s'est passé, Brice Teinturier? Pourquoi ça n'imprime plus?
Il s'est passé plusieurs choses. D'abord, l'enjeu, la préoccupation environnementale a baissé. En 2019, elle faisait partie des trois premières préoccupations. Aujourd'hui, elle est reléguée plutôt au cinquième rang ou au sixième rang. Les Français mettent d'abord, prioritairement en avant, le pouvoir d'achat, des enjeux autour du système de santé, de la protection sociale, l'immigration, la sécurité. Donc l'environnement a tout simplement baissé. Le deuxième élément, c'est que le pouvoir d'achat crée une tension. Et que de plus en plus de Français considèrent que, quitte à choisir, eh bien, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de trop mettre l'accent sur l'environnement si ça doit avoir un coût sur le pouvoir d'achat, le prix des matières, de l'alimentation, etc., etc. Puis le troisième élément, c'est l'offre politique. Mmh. De plus en plus de partis politiques se sont mis à critiquer les normes environnementales, le Green Deal.
C'est là que j'allais vous emmener. Est-ce que ce qu'on a vu notamment autour de l'agriculture ces derniers temps et un rôle sur l'Europe et sur les normes européennes a tellement infusé qu'on le voit là
dans les résultats? Contribue à dévaloriser, délégitimer l'importance de l'enjeu environnemental. Il ne faut pas s'étonner qu'ensuite ça régresse dans l'opinion si les responsables politiques eux-mêmes font de cet enjeu un enjeu plus mineur qu'il y a 3 ou 4 ans.
Et d'ailleurs, dans le discours de la Sorbonne, c'était flagrant. 1h50 de discours et on cherche le passage sur la transition écologique. C'est un tout petit passage d'Emmanuel Macron où il évoque la Banque Centrale Européenne qui devrait avoir un objectif pas seulement de lutte contre l'inflation, mais aussi de décarbonation ou de croissance verte. C'est tout, c'est quasiment tout, avec ce hiatus entre l'Europe ne doit pas être un marché, seulement un marché, il ne faut pas de concurrence déloyale, donc il faut des normes. Mais donc, s'il faut des normes environnementales, forcément, ça nous fait revenir sur la transition écologique. Donc, clairement un recul d'Emmanuel Macron par rapport à 2017 sur cette question, c'était flagrant dans son discours de la Sorbonne bis.
Aurélien, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Aurélien.
Moi j'ai 28 ans, donc ça fait 10 ans que je vote, je travaille, et pour les élections européennes, là je suis perdu, parce que, donc une chose est sûre, je ne voterai pas les extrêmes, mais pour moi, mon vote, ce qui va le conduire, c'est quelle place a l'Europe sur le quotidien de nous Français. Je prends l'exemple des travailleurs, en France on a une histoire sociale, qui n'est pas la même qu'en Pologne ou en Allemagne. Et pourquoi est-ce que l'Europe viendrait uniformiser tout ça sans prendre en compte le contexte national, le contexte historique, etc. Et c'est vraiment ça qui va, quand les programmes seront sortis, décider mon vote.
Merci beaucoup Aurélien pour cette remarque et ça poursuit finalement ce qu'on était en train de dire au sujet des agriculteurs Sylvain Kahn, mais ce qu'on perçoit dans les frayeurs que peuvent avoir les gens aujourd'hui, c'est cette idée d'Europe qui aplanit tout et qui uniformise tout et qui fait justement une espèce de grand tout des 27 que nous sommes. Et cette image lui colle aux chaussures.
En effet, et c'est une perception parce que...
Est-ce qu'on peut dire à Aurélien, c'est pas vrai Aurélien? Tranquillisez-vous, c'est pas vrai. Notre modèle social sera pas abîmé par l'Europe.
Oui, on peut dire ça, mais si c'est juste un argument d'autorité en disant c'est pas vrai, Aurélien risque de se braquer et de demander des explications, et il aurait raison. Parce que il y a l'argument inverse qui est employé par certains, consistant à dire qu'avec l'Europe, il n'y a pas d'Europe sociale. Mais précisément, s'il n'y a pas, entre guillemets, d'Europe sociale, c'est parce qu'il y a toujours des normes minimum qui sont décidées à l'échelle de l'Europe, pour permettre à ceux qui veulent faire plus, de pouvoir faire plus. Donc, le fait qu'il y ait la perception que le modèle social français en particulier soit vulnérable, abîmé, érodé, c'est peut-être une perception qui correspond à la réalité, mais est-ce que c'est lié aux lois européennes? C'est pas du tout certain. Mmh. Et deuxième chose, là je fais un peu un changement d'aile, il se trouve que c'est vraiment une particularité française, de la société française, que d'avoir l'attachement tel qu'on l'a, à cette conception de l'État social et de l'État-providence tel qu'on l'a. Mmh. Il y a des tas de gens en Europe, par exemple, le mot « service public » n'existe quasiment qu'en France. Mmh. Ailleurs, on parle de services d'intérêt généraux. Donc, bon, mais pour autant, j'ai pas l'impression, mais il faudrait en débattre, évidemment, j'ai pas l'impression que le modèle social français soit détricoté par l'Europe.
Non, je crois que c'est pas du tout l'Europe non plus qui est responsable de cela, et surtout que pour qu'il y ait une Europe plus sociale, il faut qu'il y ait davantage d'harmonisation, parce que c'est précisément les concurrences déloyales, les niveaux de salaires différents, les niveaux de protection sociale différentes, qui font que ce tout n'est pas assez homogène. Et vous aviez, dans les élections européennes précédentes, souvent la gauche qui portait l'idée d'une Europe sociale, d'une harmonisation qui devait se faire. La gauche française.
Et qui est seule. Oui, seul à le faire, totalement isolé au Parlement européen.
Mais là, on parle à un électeur français.
Oui, bien sûr, mais ça me paraît très important en discutant avec les électeurs français, de rappeler que là, par exemple, sur le tract de Glucksmann, enfin celui que j'ai vu il y a 15 jours ou 3 semaines, il y a écrit pour une Europe sociale, mais il y a une spécificité des socialistes français qui font qu'ils sont les seuls en Europe à demander certaines choses que les autres socialistes ne demandent pas.
Mmh. Bah, tout le monde n'a pas effectivement notre histoire aussi, et notre histoire sociale, notre histoire d'après-guerre.
On en revient à ces grands partis européens, au Parlement européen, qui sont aussi des agrégats de différentes familles politiques qui ne sont pas forcément les mêmes.
Famille, je suis d'accord, mais agrégats, il y a quand même des convergences idéologiques très fortes. Oui. Et en l'occurrence, s'agissant de l'Europe sociale, les socialistes français sont l'exception qui confirme la règle.
Sur WhatsApp, il y a cette remarque de William qui a probablement un autre argument pour notre amie Catherine et pour l'envoyer voter, et qui lui dit l'argument, à mon sens, le plus important aujourd'hui pour inciter à aller voter, c'est que c'est le seul scrutin proportionnel que nous ayons en France. Donc, votre voix ira forcément à la liste que vous avez choisie.
Bon argument, c'est vrai que c'est le seul, hein, à un tour avec une circonscription nationale, ce qui explique aussi le nombre de listes gigantesques.
Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure en introduction, est-ce que c'est pas le seul scrutin où on peut voter pour et pas contre quelqu'un? Parce qu'on est sûr à un moment qu'au moins une partie des têtes de liste, en tout cas si on va au-delà de 5%, finira au Parlement.
Il y a d'autres scrutins en France qui fonctionnent avec de la proportionnelle. Hein. Il n'y a pas que les européennes, mais c'est vrai que les européennes, c'est une proportionnelle intégrale dans une circonscription unique. Donc de ce point de vue, ça peut être intéressant pour certains électeurs qui sacralisent la proportionnelle. Mais on peut considérer aussi que le scrutin majoritaire à deux tours, il déforme la réalité sociale du pays, mais il a l'avantage de bien désigner des majorités. Donc il y a toujours un débat sur quel est le meilleur mode de scrutin.
On n'a pas parlé du RN qui pourtant en intention de vote en France est à 31 au moment où on se parle. Et voici Albert qui est au Sable d'Olonne. Bonsoir Albert.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
Merci d'avoir pris mon appel et merci pour vos émissions de qualité. Simplement, je réagissais, j'ai une petite question. Donc on voit les principaux partis qui existaient avant, on va appeler PS, etc. Enfin, tous ces partis qui étaient des grands partis, tout du moins en termes de vote. Et on les voit aujourd'hui, ils sont un petit peu en train de louvoyer, un petit coup d'extrême droite, un petit coup de l'extrême gauche. Donc les Français se retrouvent finalement, moi-même pas trop, on aurait du mal à comprendre, il y a un manque de clarté, il y a un manque de positionnement, à mon sens. Hein. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que s'il y avait plus de clarté au sein des partis, des principaux anciens partis, est-ce que vous pensez que le RN aurait le même score aujourd'hui?
Alors, manque de positionnement, je voudrais rajouter quelque chose, c'est Sophie Parmel qui nous dit « Mon fils de 18 ans qui va voter pour la première fois de sa vie me parle sans arrêt de Jordan Bardella et ça me désespère », nous dit Sophie. J'ai l'impression en tout cas que le RN est extrêmement présent sur les réseaux sociaux, donc non seulement une présence, mais aussi un positionnement. Je vous ai levé le doigt, Sylvain Kahn.
Oui, parce qu'il me semble que la réponse à la question de notre auditeur est dans sa question, c'est-à-dire que ce sont, et c'était très net en 2019, les partis qui ont un positionnement très clair sur l'Europe, sans tension interne, qui ont le vent en poupe. On l'a très bien vu en 2019. Mmh. Et aujourd'hui, Brice Teinturier le rappelait, Glucksmann, à la différence des socialistes en 2017 et en 2019, un positionnement qu'on va appeler, pour aller vite, pro-européen extrêmement clair, c'est-à-dire l'Europe fait partie de la solution, voire est la solution. C'est également le cas encore de Renew, c'est le cas du RN qui dit l'Europe fait partie du problème, voire est le problème. Et les écologistes, puisque c'était évoqué tout à l'heure, bah aujourd'hui, on ne comprend plus très bien quel est leur positionnement par rapport à l'Europe. Donc, au contraire, plus les partis sont clairs sur l'Europe, me semble-t-il, je pars sous le contrôle de Brice Teinturier, plus ils attirent les électeurs.
Alors, plus ils sont clairs sur l'Europe, mais je vais quand même rajouter la question de Philippe sur l'appli, qui dit « Moi, je voterai en fonction des enjeux nationaux, parce que selon moi, c'est le seul moyen d'obliger les partis politiques de gouvernement à ouvrir les yeux, et je n'ai absolument pas, je n'ai aucune gêne à le faire. »
Alors, on est en plein dans la tension des européennes qui revient tous les 5 ans, c'est « Est-ce que c'est un scrutin de sanctions de mi-terme, de mi-mandat, ou est-ce que c'est une élection proprement européenne ? Et là, vous allez avoir vraiment deux campagnes asymétriques du RN et de la liste Valérie Ayé. Ça va être ça la suite, c'est européaniser au maximum, quasiment ne plus rien dire de national jusqu'au 9 juin pour pas perturber la campagne. Ça, c'est côté Macron. Et côté Jordan Bardella, c'est le référendum anti-Macron. Il faudra dissoudre s'il est puni. En gros, c'est ça. Hein.
Brice Teinturier, monsieur le sondeur, est-ce qu'au moment où on se parle, là, à cet instant T, à 19h59, oui, on est en plein référendum, on est en plein mid-term d'Emmanuel Macron?
Mais oui, mais encore une fois, avec des niveaux qui sont totalement différents suivant votre sensibilité politique. Vous êtes un électeur RN, vous votez à fond sur les enjeux nationaux et pour sanctionner Emmanuel Macron. Vous êtes un électeur de la France Insoumise, c'est aussi la même chose. C'est pas pour rien que Jean-Luc Mélenchon dit c'est le premier tour de la présidentielle. Ça veut dire que les européennes, ça ne compte pas, c'est que la présidentielle qui compte. Et puis pour toutes les autres listes, sensibilité, au contraire, ce sont des enjeux européens qui doivent primer et c'est là-dessus que doit s'exercer le vote.
Allez, 6 semaines, le vote, et on aura largement l'occasion d'en reparler. Tiens, je vous dis, nous, lundi, on est en Espagne, par exemple, pour parler d'Europe. La question des petits bateaux de ce soir, c'est celle de Margot, qui a 9 ans.
Je voudrais savoir pourquoi les docteurs